Direct en jeu, la radio insolite, le théâtre qu'il est bien, mais là, imaginez, je n'ai pas n'importe qui, j'ai Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour, quelle introduction.
Alors Maxime, je vais te présenter tout simplement, tu fais 1m85, tu pèses 75 kg, tu as les cheveux châtains, les yeux marron vert, et tu es né en juin 1989.
Oui.
Voilà, j'ai bien tout dit.
Oui, enfin en tout cas ce qu'il y a sur ma carte d'identité.
C'est en tout cas les infos que j'ai. Alors, tu as un parcours assez original parce que tu c'est tout frais quoi. Tu as fait une formation qui date entre 2008 et 2011, mais tu as eu des professeurs d'interprétation qui n'étaient pas n'importe qui quand même.
Et oui, j'étais avec Daniel Mesguich en première année au Conservatoire National et ensuite Jean-Damien Barbin. Et ces deux professeurs m'ont énormément appris. Pour résumer en quelques phrases ce qu'ils m'ont appris, alors ça peut peut-être paraître un peu prétentieux comme ça, mais ils m'ont montré comment l'acteur peut... Quelle est la part de création de l'acteur dans un projet sur scène et en quoi il est un artiste. Et ça, c'est une ambition extraordinaire et ils me l'ont donné quelque part.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène ?
J'ai commencé très très tôt à jouer. Je jouais dans des films et des publicités quand j'avais 8 ans. Mmh. Ah. Et le théâtre était quelque chose qui me paraissait très inaccessible. Je connaissais le cinéma, mais mes parents m'emmenaient pas beaucoup au théâtre. Bon, c'est aussi parce qu'on était loin d'un théâtre. On habitait en banlieue parisienne. Mmh. Et puis, en voulant me former pour jouer devant la caméra, j'ai découvert le théâtre. Et là, j'ai petit à petit compris en quoi c'était extraordinaire pour un acteur. Parce que c'est des sensations qui sont incomparables à ce qu'on peut avoir au jeu devant la caméra, où une prise va durer maximum une minute trente, mmh. Tandis qu'au théâtre, on peut être sur scène pendant une heure et demie et parfois tout seul et voilà, et c'est trouvé, il y a un rapport avec le public, on a la réaction directe, il y a pas de triche, on peut pas couper, on peut pas refaire et on se jette et c'est comme une longue chute contrôlée et c'est absolument extraordinaire.
J'ai l'habitude de dire que au cinéma ou à la télévision, en effet, c'est enregistré sur une pellicule, mais les scènes sont courtes, alors qu'au théâtre, c'est toujours l'éphémère. Tous les jours, ça change. C'est jamais la même chose.
Non, c'est jamais la même chose. Le public ne réagit jamais au même moment. Et puis, oui, il y a une adrénaline qui est assez folle. C'est amusant parce que des fois, quelques jours avant le jeu, on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Mais c'est pas possible, je pourrais m'épargner ça. C'est ce stress énorme. Et puis, il y a toujours un moment entre douleur et plaisir. Et une fois qu'on est sur scène, on se lance. Alors, bon, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé parfois de trébucher et puis de pas réussir à me relever et de faire toute la représentation comme ça en dégringolant comme un skieur pris dans sa chute. Mmh. Et bon, là, c'est absolument terrible. Je souhaite ce sentiment-là à personne. Mais heureusement, c'est très rare. Et puis, plus on répète un spectacle, et moins ça nous arrive.
Ouais, mais ça fait partie des plus beaux souvenirs.
Les souvenirs de chute, je ne sais pas quand même. Hein. C'est vraiment ce qu'on redoute. Hein. C'est le parachute qui ne s'ouvre pas. Hein.
Oui, mais l'avantage, c'est que tu es obligé d'improviser complètement et d'aller de l'avant. Tu ne peux pas je m'arrête.
De toute façon, on ne s'arrête pas de parler, on ne peut pas... C'est Barbara, je crois, la chanteuse, qui parfois interrompait ses concerts et disait « Je suis désolé, là, ça ne va pas, je vais m'arrêter de chanter. » Mais nous, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Même si, quelques très rares fois, on aurait envie de tout recommencer depuis le début. Mais non, non. Heureusement, la grande majorité de mes souvenirs sur scène sont des souvenirs... absolument extraordinaire et j'ai pas le mot, d'ailleurs il n'y a pas de mot pour décrire ça, mais c'est formidable.
D'accord. Dans quelques instants, on va parler de ton spectacle actuel, c'est-à-dire Le Pied de Rimbaud. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi assez original dans ta présentation, c'est que tu es resté toujours très classique. Alors, c'est La ville dont le prince est un enfant, Le songe d'une nuit d'été, Les trois sœurs, Hamlet, Cyrano de Bergerac, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est un fait exprès d'avoir été dans cette direction du théâtre, j'allais dire, plus classique?
Bonne question. J'y avais jamais pensé. Et puis finalement, à la lecture de mon CV, effectivement, c'est le cas. Oui, bah, ça vient aussi du circuit dans lequel je suis, qui est celui du théâtre public, et a aussi pour mission de jouer sur scène les grandes pièces de répertoire. Mais heureusement, j'ai eu la chance d'aussi d'avoir des aventures dans le théâtre contemporain. Là, je vais jouer aux Ateliers Berthier en fin mars une pièce de Tiphaine Raffier qui est une adaptation qu'a faite le metteur en scène de Philip Roth, donc une adaptation de Némésis, le tout dernier livre de Philip Roth. Donc de temps en temps, comme ça, j'ai eu des possibilités de jouer des pièces dites contemporaines ou des adaptations contemporaines. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi des classiques, c'est qu'ils ne sont pas devenus des classiques pour rien, et on peut les jouer des centaines de fois sans jamais s'en lasser. Par exemple, En attendant Godot, bon, qui a été écrit en 1947, si je ne me trompe pas, je l'ai joué des dizaines et des dizaines de fois, et je pourrais passer des décennies à jouer ce spectacle, ça ne me dérangerait absolument pas. C'est à chaque fois qu'on le joue, on découvre des nouvelles choses, et ça, je crois que c'est le propre des chefs-d'œuvre classiques.
D'accord. Le Pied de Rimbaud, c'est au studio Hébertauf avec Bérangère Dantin comme directrice. Là, on est dans une adaptation d'Arthur Rimbaud. Est-ce que tu peux me faire le pitch rapide de ce spectacle?
Oui, alors, c'est un récit de Rimbaud, le seul récit qu'il ait jamais écrit, qui est un récit quasi autobiographique qui s'appelle Un cœur sous une soutane, dans lequel il imagine un étudiant au séminaire, donc qui va devenir prêtre, et qui tombe fou amoureux d'une fille qui s'appelle Timotina Labinette. En fait, donc c'est un montage qu'on a fait avec plusieurs textes de Rimbaud, donc notamment ce récit Un cœur sous une soutane, mais aussi Les lettres du voyant et puis d'autres poèmes qu'on est allé chercher pour essayer de faire raconter Rimbaud par lui-même, en quelque sorte. Donc c'est vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin, une envolée à la fin. Bon, je ne veux pas dévoiler la fin de la pièce, mais il va vivre tout un tas de choses qui vont l'amener vers la poésie.
Pourquoi est-ce que c'est présenté comme étant du théâtre musical?
Alors, parce que à toutes les représentations, il y a un musicien qui vient improviser avec moi la bande originale du spectacle, en quelque sorte.
C'est original.
C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs musiciens qui alternent et qui jouent une partition qui n'est pas écrite.
Une partition qui n'est pas écrite.
Donc une partition inexistante, oui, et qui improvise, pour le dire autrement, pardon.
D'accord.
Non, et donc c'est un peu un défi parce que je ne sais jamais comment ils vont jouer. Donc, ils me surprennent en permanence et ça permet je crois, de garder
Une
le
fraîcheur.
spectacle sur un fil, en quelque sorte.
Dans la présentation du spectacle, j'ai vu qu'on parlait d'un projet révolutionnaire ouvrant une fenêtre sur la modernité.
Oui, bah, le projet révolutionnaire, c'est celui de Rimbaud, hein. On continue d'écrire des livres et des livres et des livres sur ses poèmes, et puis aussi sur les propos qu'il a tenus dans ses lettres, les lettres du voyant notamment, par lesquelles on conclut le spectacle, et qui sont complètement incroyables. Là-dedans, il aborde énormément de choses. Bon, notamment, par exemple, la position de la femme dans la société. À un moment, il dit quand sera brisée l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différentes-ils des nôtres? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Enfin, c'est complètement fou. Et il a 16 ans quand il écrit ça. Enfin bon, c'est incroyable.
D'accord. C'est marrant parce que quand tu parles, on sent la passion qui t'habite.
Ah oui, bah Rimbaud, c'est le premier poète que j'ai compris. J'avais un professeur, enfin un maître en CM1 qui était assez ambitieux parce qu'il nous avait fait apprendre Le Dormeur du Val. Et c'est le premier poème que j'ai compris grâce à ce maître. Et Rimbaud, pendant longtemps, était le seul poète où il y avait quelque chose de brutal qui immédiatement m'atteignait. Là où j'avais un rapport plus intellectuel aux autres poètes que je lisais.
C'est si ce qui t'a fait choisir cette pièce, c'est le texte, c'est l'auteur, c'est la mise en scène.
Alors, c'est une discussion avec le metteur en scène. On cherchait à monter un spectacle ensemble quand on s'est rencontrés bah, justement sur En attendant Godot. Et puis, on a découvert cette passion commune pour Rimbaud. Mais ce qu'on voulait à tout prix éviter, c'était faire un récital poétique. Ça, on
Tout
voulait
à fait.
pas, voilà, on voulait pas un acteur sur scène comme ça qui déclame des poèmes, avec pourquoi pas un musicien derrière. On voulait vraiment éviter ça. On voulait que ça raconte une histoire, tout, oui, prenne un sens comme ça, dramaturgique. Le cœur sous une soutane, il nous a semblé que malgré la jeunesse de Rimbaud au moment où il écrit ce texte, il a 15 ans, on sent il glisse comme ça à travers on sent vraiment frémir l'immense poète qui va devenir presque quelques mois plus tard, en fait. Et voilà, et on s'est dit que ben, avec ça, on pouvait raconter Rimbaud. Avec les mots de Rimbaud.
D'accord. Okay. C'est tous les samedis, si je dis pas de bêtises, à 17h. Ça a commencé samedi dernier, ça continue jusqu'au 11 mars.
Ça continue jusqu'au 11 mars, voilà, tous les samedis à 17h au studio Héberto, dans le 17e à Paris. Et oui. Et c'est voilà, c'est un voyage qu'on fait moi et le musicien avec les spectateurs qui sont là, une évasion en quelque sorte.
D'accord, ok. Bah écoute, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour présenter le spectacle, qui c'est vrai sort un peu de l'ordinaire. On peut découvrir ce poète d'une ère complètement différente, avec un mix spectacle et musique. Et ça vaut la peine de se déplacer. N'hésitez pas à vous faire un grand plaisir. Il s'appelle Maxime Dambrun, il joue au studio Hébertouf. Tous les samedis à 17h, du 14 janvier au 11 mars. Ah oui, je suppose qu'en allant sur la page du studio Berthaud, sur le site internet du studio Berthaud, on a toutes les infos.
Oui, absolument, oui. Vous tapez Studio Héberto et le spectacle s'appelle Le Pied de Rimbaud.
Eh bien, écoute, eh ben, je voulais te remercier.
Ben, moi aussi, et puis voilà, je suis vraiment extrêmement fier de ce spectacle. Je crois que c'est en tout cas l'un des spectacles qui me tient le plus à cœur depuis que je suis sorti du conservatoire. Parce qu'il me touche particulièrement. Rimbaud, les poèmes de Rimbaud, je crois qu'on peut les faire lire à n'importe qui n'a jamais lu de poésie. Et il y a quelque chose qui peut le toucher intimement, directement, sans aucune grille de lecture. C'est frontal, ça n'a pas besoin de grille d'explication. Et d'ailleurs, on a des spectateurs très jeunes qui sont venus de 11 ans, 12 ans et qui ont été touchés par quelque chose. Et ça, c'est vraiment très rare, c'est extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un qui a une écriture qui, je crois, continuera d'éveiller les gens à la poésie, à l'art pendant des siècles et des siècles, justement à cause de ça.
Eh ben, je trouve que c'est très joliment dit, ça donne envie en tout cas de venir faire un tour pour voir, pour te voir en action. Merci à toi.
Merci.